chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série « Jésus-Christ en nous » par le Saint-Esprit. Nous arrivons à l'étude numéro 11. Le thème sera que Dieu seul s'impose. Aujourd'hui, je suis très conscient de mon incompétence pour le travail qui m'a été donné, surtout si je pense au temps où Dieu m'a appelé et à la façon dont j'ai fait obstacle à Dieu. Ainsi, Dieu n'a pas pu effectuer au travers de ses instruments tout ce qu'il voulait sûrement accomplir. Malgré cela, c'est un véritable miracle de la façon dont Dieu se révèle dans son Église. Il se révèle par son Saint-Esprit au travers de personnes aussi faibles que nous, non pas que nous l'ayons mérité, surtout pas, mais parce que Dieu nous accepte en raison de la grâce de Jésus-Christ et du pardon du péché. Chers amis, nous voulons employer ce jour à honorer Dieu et à lui promettre solennellement que notre propre pouvoir sera et restera toujours anéanti pour que seule la puissance, la toute-puissance de Dieu en Jésus-Christ puisse dominer parmi nous, et cela au travers de l'Esprit Saint. Et qu'il en soit fini pour toujours de notre propre valeur, que Dieu seul s'impose et règne en Christ et en l'Esprit Saint. Ainsi nous témoignons de la grâce, ainsi nous remplissons notre mission. Tout ce que nous possédons est un don immérité de Dieu. Dieu ne nous donne ce don immérité que si les avantages et les privilèges personnels n'existent plus. Ainsi, nous témoignons de la grâce et nous la sollicitons. Cette grâce apparue en Jésus-Christ et qui vient à nous par le Saint-Esprit. Chers amis, l'amour de Dieu est éternel et impérissable. C'est la révélation ultime et la plus grande de l'au-delà pour nous ici-bas. Tandis que le désir, la vanité et la fortune, sans aucune valeur pour l'éternité, doivent disparaître et que les dons et les talents humains les plus précieux, tels que les langues, la connaissance et la prophétie, sont temporels et disparaîtront. Mais l'amour est tout simplement la vie même dans tous les sens, oui, la vie complète et éternelle. Ainsi l'amour agapé, contrairement à Eros, qui est lui-même ambigu, porte les traits de celui qui déverse cet amour en nous. L'amour ne connaît aucune limite dans le temps et l'espace. L'amour ne détruit pas. C'est la force même de l'endurance invincible. En tant que loyauté fidèle, l'amour est à la hauteur de tout devoir. Seul l'amour sait ce qui est bon pour chacun selon sa situation, grâce à son amitié sincère. Car l'amour est dénué de l'agitation passionnée d'Eros, qui essaye par tous les moyens de la jalousie de gagner ou de retenir ce qu'il croit aimer. Agape, c'est donc, je parle de l'agape, elle revêt l'énergie, de notre amour, avec sa lumière divine, avec sa pureté ineffable. Il ne peut jamais être grossier, l'amour agape, ou méchant. Voyez-vous, il ne peut ou il ne veut jamais blesser la modestie et la sensibilité de l'âme. Cet amour ne croit pas en lui-même. Il est libre de toute prétention, de tout charlatanisme, et il ne recherche pas son avantage. Il ne recherche rien pour lui-même, car il vit dans son objet. Sa nature est d'abandonner et d'oublier tous ses propres droits en trouvant son bonheur uniquement à donner. Comme la vanité et l'envie sont au-dessous de lui, il ne peut pas devenir acerbe, ni irrité ou amer, parce qu'il voit l'essentiel et le devenir de chacun. Il ne tient pas compte de ce qui est encore négatif. Pourtant, cet amour n'a rien à faire avec l'injustice. Il se concentre pleinement et avec joie sur ce qui est vrai, sur ce qui est authentique, sur la vérité dans l'âme des autres. Sa vision pénètre au travers des murs qui entravent la destinée divine d'une âme au moment présent. Cet amour est le pouvoir de protéger, d'endurer et de détourner tous les dangers qui menacent la destinée de l'homme. Cette force est capable de tenir ferme et de tout supporter. Chers amis, c'est dans la vaste et grandiose création, ce spectacle bouleversant pour l'homme, que Dieu vient à la rencontre de son cœur. Le cœur ingénu des anciens ne confond jamais Dieu avec la nature. Mais l'homme, au cœur d'enfant, ne peut pas comprendre la majesté de Dieu sans la nature. Il ne peut pas méconnaître la création alors qu'il est devant le Créateur. Dans les relations mystérieuses des mondes créés, l'homme croyant ressent la puissance du Créateur qui donne à tout ce qui est créé importance, vie, cohérence et unité. L'homme respectueux pressent un mystère ultime dans tout ce qui est vivant. Il prend conscience de l'esprit créatif et vivant, sachant que cet esprit est plus puissant que ce qui est créé. L'homme, au sein de la terre fructueuse et vivante, est rempli d'admiration respectueuse devant la vie de l'arbre de sa force, devant la source jaillissante qui semble déborder de joie sous les rayons de soleil et des étoiles qui dispensent la vie. Un cœur ému et ébranlé par tout cela entend l'appel provocateur. Le Dieu Tout-Puissant doit régner sur cette vaste création avec un pouvoir incontesté. Celui qui reçoit l'esprit de la nouvelle création, qui amène la fin des mondes et des temps, reçoit le pouvoir éternel du Dieu unique qui a formé la première création dans le même esprit. Comme esprit tout-puissant, l'avenir de Dieu vit dans le présent d'une création vieillissante en vertu de son attente expectative de la fin. De la fin où il transformera tout au dénouement ultime de la création. L'aube nouvelle a déjà paru. Chacun doit le voir. Une nouvelle création apparaît. Son évangile est pour toute la création. Ce monde matériel est une création de l'Esprit Saint. Le cosmos est destiné à l'unité de l'Esprit Saint et de la matière. La séparation, la division entre esprit et matière, où l'un combat l'autre, est contre nature. C'est absolument contre nature. Et l'opposé du caractère vrai de la création. Voyez-vous, pour cette raison-là, le temps doit venir où toute la matière, sans l'empoisonnement de la vie, sans la mort destructive, sera là pour Dieu. C'est Jésus qui a témoigné par sa mission de ce qui affirme la vie. Il nous l'a proclamé. Il a proclamé tout cela. Le ciel et la nouvelle terre seront une unité. Alléluia. Avec cette proclamation, Jésus ramène la véritable vie divine dans le quotidien. Ce qui lui importe, c'est la vie de tous les jours et du moment présent. Il se soucie de l'âme et donc aussi du corps. La tâche de l'homme, depuis l'origine lointaine de sa vie sur la terre, a été de cultiver et de prendre soin du jardin qui lui avait été donné. Cependant, même l'homme croyant de l'Ancien Testament le savait déjà. Le jardin n'a pas été gardé ni protégé. Sa culture a été dérangée par l'ennemi. L'ennemi qui a semé des mauvaises herbes. Mais le croyant courageux a dû justement s'élever au-delà de cette profonde déception. Le jardin doit être regagné pour Dieu. Oui, cependant, les hommes doivent être prêts, ils doivent être prêts à accepter l'autorité de Dieu. Le royaume de Dieu a les mêmes résonances terrestres, la même nuance terrestre que le paradis perdu. Le péché destructeur qui nous a empêchés de nous réjouir sur la terre doit être vaincu. Ce n'est pas l'homme renouvelé et racheté par Dieu qui doit partir, mais c'est l'ennemi de Dieu qui doit quitter la terre. Nous voulons ardemment prier pour que nos cœurs soient touchés et puissent continuellement être stimulés par les pensées généreuses de Dieu, par les événements les plus importants, pour que nous suivons avec nos pensées les courbes divines infinies, non seulement à ce qui concerne les continents ou notre planète, mais en ce qui concerne le monde des étoiles fixes et des galaxies, non seulement en ce qui concerne les années, mais bien plutôt les siècles, les millénaires, dans toutes les dimensions des pensées de Dieu. Ceci doit être notre prière, notre désir sérieux et ardent, car les événements des temps derniers nous y contraignent. Ne soyons pas une génération mesquine en face d'événements qui nous ébranlent. Soyons dignes, oui, dignes du temps historique présent et de la vocation si importante qui nous a été confiée. Chers amis, le Christ en nous, par le Saint-Esprit, voilà le secret de la vie d'unité en Dieu pour tous ceux qui sont guidés par l'amour, hors de leur isolement mortel, vers la vie en communauté. Lorsque l'Esprit divin vit en nous, nous sommes délivrés de la vie centrée autour de nous-mêmes et nous sommes nés de nouveau dans une vie centrée uniquement en Dieu. La liberté, c'est la rédemption de l'Esprit. C'est notre vocation la plus élevée qui nous incite à quitter notre nature basse et vile, à nous en détacher et à être libérés de la lutte profondément pénible de nos cœurs, la lutte entre le bien et le mal, entre l'esprit et la chair. Nous savons que cette liberté ne peut jamais être effectuée par des mesures extérieures, mais uniquement par la loi de l'Esprit Saint, et ceci sera seulement réalisé lorsque l'Esprit du Seigneur régnera sur toute la terre. Depuis la venue de Jésus sur la terre, depuis sa mort sur la croix, depuis sa résurrection, son ascension au Père et son don de l'Esprit Saint, depuis ce moment-là, le royaume de l'Esprit a sa demeure dans le pays des hommes. Nous vivons dans le pays des hommes et nous voulons y rester aussi longtemps que Dieu le voudra. Mais en même temps, nous savons que nous sommes citoyens du royaume de l'Esprit divin. Nous sommes dans le pays des hommes comme citoyens d'un royaume étranger, un royaume de l'Esprit divin, et nous représentons justement sur cette terre humaine les intérêts divins de notre royaume de l'Esprit dans ce pays des hommes auxquels nous appartenons corps, âme et esprit. La bête en nous, elle doit être maîtrisée. Et la bête en nous résiste à la domination de l'esprit. La bête en nous n'est pas notre destinée finale. Non et non, nous sentons que notre destinée vraie est le royaume de l'Esprit divin et nous soupirons après son règne. Nous devons donc nous recueillir pour que le royaume intrinsèque soit établi en nous-mêmes. Il faut reconnaître que la libre volonté de l'âme isolée ne signifie pas liberté. Seul l'amour est capable de nous unir ensemble avec la liberté éternelle. Il faut que les pensées deviennent des actions. Il est temps de savoir que les pensées sont les géants et que les actions sont leurs enfants. Le destin est déterminé dans le monde de nos pensées. Je répète parce que c'est important. Donc, il faut que les pensées deviennent des actions. Il est temps de savoir que les pensées sont les géants et que les actions sont leurs enfants. Le destin est déterminé dans le monde de nos pensées. C'est nous, oui nous, qui décidons du temps et de l'éternité par nos aspirations et par nos réflexions. Ceux qui sont charnels pensent aux choses de la chair, et ceux qui sont spirituels pensent aux choses de l'esprit. Aussi longtemps que nos pensées circulent autour de nous-mêmes, l'aimant de l'ego, c'est comme un aimant, nous tient et nous ne pouvons pas en être libérés. Aussi longtemps que nous sommes retenus par notre égoïsme, par tous nos petites égocentricités, nous ne pouvons pas être libres. Ce n'est que là, oui là, où nous sommes parvenus à nous détacher de cette averse, on peut dire de cet asservissement, que nous trouvons la liberté totale. Oui, la liberté de l'esprit. Chers amis, vous avez été achetés à un très grand prix. C'est ce que nous rappelle l'Esprit Saint. Alors ne soyez pas esclaves des hommes. Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas l'esclave du Christ. Moins nous pensons à nous-mêmes, plus nous serons capables d'être liés aux autres. Je répète, moins nous pensons uniquement à nous-mêmes, plus le Seigneur nous donnera la possibilité d'être liés aux autres et de penser aux autres pour les aider. Une seule voie conduit à la libération de l'esclavage, c'est le fait d'être libéré, libéré de notre propre ego. Liberté de l'esprit qui alors a sa vie en Dieu le Père, en Christ Jésus. Les réflexions de l'esprit engendrent la libération car les pensées de l'esprit se dirigent vers Dieu. Amen. Chers amis, avant de prier ensemble, le Seigneur m'a mis dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre encouragement et en même temps pour votre enseignement. Écoutez ceci. Vous pouvez à tout moment respirer près du Seigneur l'air vivifiant des sommets grâce à l'Esprit Saint qu'il vous apporte. Que pouvez-vous faire de mieux pour les autres que de les amener à comprendre qu'en s'ouvrant à son Esprit Saint, tout obstacle à leur croissance spirituelle est éliminé, tandis que sont pleinement satisfaites les plus hautes aspirations de leur nature. Ce n'est pas en pensant à Jésus, mais en demeurant en lui, que toute crainte est parfaitement surmontée. Là où le Seigneur est réellement présent, on n'appréhende plus rien. La peur fut effectivement vaincue à jamais quand il réduisit Satan, rappelez-vous, à l'impuissance. Si tous ses disciples se persuadaient de tout cela et le proclamaient surtout avec force, on n'aurait même plus besoin de violence extérieure pour repousser le mal. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, nous implorons le secours de grâce, afin de pouvoir te prier et te bénir. Sans ce divin secours, sans l'efficace de ton Saint-Esprit, nous sommes muets devant toi. Nos cœurs ne peuvent sentir aucun mouvement de reconnaissance. Nos âmes ne peuvent s'élever au-dessus des entraves de cette vie, alors que nous recevons de ta bonté des bienfaits sans nombre, sans en être touchés, sans même les apercevoir. Il semble que nous ayons droit à un bonheur inaltérable et à tes plus précieuses faveurs. Ne permets pas, Seigneur, que nous demeurions dans cet état d'insensibilité et d'ingratitude. Fais-nous sentir notre misère et tous les penchants criminels de nos cœurs. Fais-nous sentir jusqu'au fond de nos âmes que nous sommes perdus sans ressources pour toute l'éternité si nous ne cherchons pas notre salut en Jésus-Christ, seul sauveur de nos âmes, seul médiateur entre toi et tes coupables enfants. Père de miséricorde, que les paroles de salut et de vérité ébranlent salutairement nos consciences, qu'elles nous réveillent de notre funeste sommeil et qu'elles nous attirent au pied de la croix de ton Fils bien-aimé. Daigne-nous diriger par ton Esprit Saint dans l'emploi de cette journée. Daigne-nous protéger et de nous bénir. Nous t'invoquons pour nos amis, pour nos parents, pour tous les malades, pour les affligés. Ô Seigneur, écoute et daigne exaucer nos supplications au saint nom et pour l'amour de notre Sauveur adorable. Amen. Amen. Et chers amis, il est vrai que beaucoup d'entre vous apprécient ces thèmes, apprécient ces séries, les unes après les autres, que vous pouvez retrouver pour ceux qui possèdent Internet. Je ne le possède pas, mais je travaille pour Internet. Bénévolement, vous l'avez compris, et à mon très grand âge, c'est une grâce exceptionnelle de pouvoir le faire. Eh bien, soyez bénis. Et je répète que, vous le savez, le Seigneur vous aime de tout son amour, et moi de même. Et je vous embrasse tous avec ferveur. Je vous enlace de mes bras et je vous serre contre moi d'un amour agapé, d'un amour divin, car je vous aime, puisque le Seigneur nous démontre que nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Alléluia. Soyez bénis. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.